To be or not to be schlag. Quelle est la question? La vérité, si on réfléchit de 3 minutes, c'est peut-être la fête la plus importante du judaïsme. Bon, en même temps, c'est facile, on dit ça à chaque fête. À chaque fois qu'il y a une fête, le rabbin il vient et il dit ah, mais, toutes les fêtes, mais cette fête-là, c'est la plus importante. Non, mais en vérité, cette fête-là, c'est vraiment la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée. Comme elle n'est pas obligée, elle vient d'où? Comme la fête, elle est obligée, elle vient soit de la Torah, soit des rabbinim. Mais celle-là, elle n'est pas obligée. Alors elle vient d'où? Les kabbalistes. Quoi, les kabbalistes nous ont obligés de faire la fête? Non, je ne sais pas. Donc la fête que nous on fait ce soir, c'est les kabbalistes qui nous ont dit de la faire? Il y a plein de choses que les kabbalistes qui font que nous on ne fait pas. Ça vient de nous. C'est Am Israël qui a décidé de faire la fête. Bien sûr que ça va venir des Mekoubalim, on va voir. Mais le fait que d'année en année, il y ait de plus en plus de Zdarim comme ça de Tu Bishvat, c'est parce que Am Israël se réveille à Tu Bishvat. Et c'est ce qui fait de cette fête la fête la plus importante. La plus importante, mais attention, la plus absurde. La plus absurde. Soyons clairs, en tant que juif qui a essayé de lire la Bible, bah, s'il y a bien un truc qu'on n'aurait pas dû faire, c'est faire une fête autour de la symbolique de manger des fruits. Quand on sait que tous les problèmes du monde viennent parce qu'un mec, il a mangé un fruit, c'est quand même problématique. Non, non. Non, c'est pas ça? Bien sûr que ça. À vos tailles. On va manger plein de fruits ce soir. Et quel bracha on a l'habitude de faire à la fin, dès qu'on a fini de manger des fruits? Qu'est-ce qu'on dit comme bracha? Ala es, ben peria es, ben perotea, ok? Comme on commence en disant un peria, voilà. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait rentrer en Israël? Ah, Miria, la Kalkala, pourquoi est-ce que tu nous as donné la terre d'Israël à nos ancêtres et à nous? Pourquoi faire? C'est quoi l'idée? Quoi, c'est ça la raison pour laquelle on est rentré en Israël? Pour manger des pommes? C'est de ça qu'on parle? Je croyais que c'était pour étudier la Torah, pour me rapprocher d'Abraham Avinu, pour me rapprocher de la Kadosh, pour manger des pommes. Alors il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Adam Rishon, lorsqu'il arrive dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu va lui donner une mitzvah. Je précise qu'en hébreu, mitzvah, ça veut dire quoi? Commandement. Je reprécise ma question. Quand on dit commandement, ça veut dire qu'on est obligé ou qu'on n'est pas obligé? Merci, je voulais juste vérifier. Parce que dans la source numéro 1 de la feuille, de ceux qui ont la feuille, nous avons le premier commandement, le premier tzivouille donné à l'homme en tant qu'homme. Yah Perou Rou, et ça il l'a donné déjà aux animaux. Mais la première mitzvah que Dieu va donner aux hommes, c'est Vayetzav Hashem Elohim el Adam l'Emor Mikol et Sagan Achol Tokem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. J'ai entendu là il y a des mots qui sont criés. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont dit sauf. Montrez-moi, je vous ai donné la feuille pourtant, hein, pour ne pas mentir. Montrez-moi, il y a marqué sauf. Il n'y a pas marqué sauf. Il y a marqué Vayetzav, Hashem, Elohim, El Adam, Lemo, Mikol, Es, Agan, Achol, Tochel. Point. C'est la fin du verset. Dans le Chumash, il y a deux points qui marquent la fin du verset. Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire de quel arbre?
Même du bien d'accord.
De tous. Alors, vous allez me dire, mais il y a un autre arbre. Ah, il y a un autre. Parce que moi, je vois qu'il y a un autre verset qui suit le verset que je viens de citer. C'est quoi cet autre verset? Umet sadat tovara, l'autre arbre. Alors, Oumet, ça ne veut pas dire sauf. La Torah sait dire sauf. Routz, Ar, Milvad, il y a plein de mots pour dire sauf. Mais Oumet, Sada, ça ne veut pas dire sauf. Ça veut dire qu'on a une autre mitzvah de ne pas manger celui-là. Et là, ça nous met devant une problématique évidente. On a une mitzvah de manger de tout, et on a une mitzvah de ne pas manger celui-là. En d'autres termes, on a une mitzvah assez, et une mitzvah de l'autre assez, qui se contredisent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qui c'est qui gagne en général dans le judaïsme entre « fais quelque chose » et « fais pas quelque chose » ? Comment ? On va faire un vote à main levée. Qui dit « fais pas » vaut mieux ? Ouais, vaut mieux ne pas faire. On ne sait jamais, sinon on va se planter. Et qui dit « vaut mieux faire » ? On a plus de positifs dans cette salle que de négatifs, c'est pas mal. Mais Zénachon, Al-Biya Al-Akha, je voulais amener ici dans la source numéro 3, ceux qui ont dans ma serrette Ménachot. Al-Biya Al-Akha, assez doché l'otah assez. En réalité, vous le savez tous. Vous savez tous qu'à Shabbat, on a un interdit de Shabbat de faire couler le sang. On n'a pas le droit de verser le sang en Shabbat. D'un autre côté, si jamais il y a un petit bambino qui a 8 jours, le jour de Shabbat, on fait quand même couler le sang. Lama, qui assez doché l'otah assez. En d'autres termes, on a deux mitzvot qui se contredisent, et Adam Harishon devait faire laquelle ? Assez. Il devait manger, y compris donc de la connaissance du bien de l'âme. Donc pourquoi est-ce que tout le monde lui tombe dessus ? Alors j'ai entendu des gens qui ont dit parce qu'il y a un ordre. Il semblerait que lorsque Akadosh Baruch Hu nous présente les arbres du jardin, il y a un ordre, à savoir... D'abord, on nous parle des arbres qui sont tov le ma'ev et tov le ma'achal, bon à voir et bon à manger. Ceux-là, comme on dit, ils ne mangent pas de pain. Après, on a un autre qui s'appelle l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Sachaïm va être Sadat Tova. Et le problème, c'est que Adam Harishon a mangé de Sadat. Il n'a pas mangé de Sachaïm. Il aurait dû manger de Sachaïm d'abord. Mais il ne l'a pas fait. Mais attendez deux secondes. Ça veut dire quoi, manger de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance? Mais de quoi on parle? C'est quoi manger de l'arbre de la vie? Il ressemble à quoi l'arbre de la vie? Non, mais Mouna, à quoi ressemblait l'arbre de la vie? Et Sachaïm, ça ressemblait à quoi? C'est Sodim. Ah, c'est à quoi ça ressemble un arbre de la vie? Et Zoer. Et Zoer, un arbre qui est clair comme ça. Et Coca-Cola, bien sûr. Seulement, on a appris dans la Torah, dans Michelet, on a appris dans Michelet que Etzraim hi la machazik imba vetomcha meusha. Quand est-ce qu'on dit cette phrase? Dans notre quotidien. Quand on rentre à Sefer Torah. Ce qui veut dire que Etzraim, c'est quoi? C'est la Torah. Mais c'est Etzadat. C'est quoi le Jacques?
La connaissance.
Connaissance possible et imaginable. En d'autres termes, Kadosh Baruch Hu nous oblige de manger de Etzraim et de Etzadat. Mais avec un ordre. En d'autres termes, si je devais résumer, comme vous avez dit un jour le Rav Shaki, la faute de Adam Harishon, c'est qu'il a été à l'université avant de passer par la yeshiva. Mais, deux secondes, prenons un cas purement théorique qui n'est pas marqué dans la Torah. Imaginons que Adam Harishon ait mangé de Etzachayim. C'est-à-dire qu'il ait mangé le Torah. Et qu'après, il décide de ne pas manger Etzadat. Un cas purement théorique qui ne peut pas arriver dans la vraie vie, hein. Une personne qui voudrait uniquement se remplir de Torah et pas de Dad, et pas de connaissances profanes. Ça n'existe pas, Denis, on parle de choses théoriques. Mais si jamais ça devait exister, ce serait best-seller ou pas best-seller? Non. C'est ce que le verset nous dit, qu'à propos de nous, des fois, on est Am Naval Velo Chacham. Il nous dira Umkelus, mais c'est Am Naval Velo Chacham, De Kabilu Oraita Vela Chakima. On a accepté la Torah, mais on n'a pas voulu de la sagesse. C'est comme ça qu'explique le Rav Kook dans Rota Torah. Les amis, Adam Harishon a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant de manger de l'arbre de la vie. C'est l'air. Shnia. Ok, j'ai compris que c'était une erreur. Mais qu'est-ce qu'il y a poussé? Comment est-ce que cette histoire est arrivée? Pourquoi il a mangé de l'arbre de la connaissance? Oui, Mouna. Ah, la Nahash. Non. Avant Nachash.
Il dormait.
Chava. Ah, vous vous rappelez de l'histoire, vous avez vu le film. Ah, Chava, qui est là, qui discute avec le Nachash, tranquilloum. Et le Nachash lui dit, et pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas de ça? Et Chava a une réponse incroyable. Attention, parce que sa réponse est très forte. Dieu nous a dit de ne pas manger. Jusque-là, c'est bon. Allez, deux secondes. De ne pas manger, c'est bon. C'est vraiment ce que Dieu il a dit. Si on admet que dans l'homme, ok. Seulement, Chava rajoute quelque chose. Et il ne faut pas toucher. Alors, est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher? Comment ça s'appelle quand quelqu'un rajoute quelque chose à ce que Dieu a dit?
Gezer.
Voilà. C'est une gzera. Nous sommes devant la première gzera des rabbinites. Non, pas des rabbanan, non. Des rabbinites. A gzera des rabbinites chez Chava imen. Maintenant, pourquoi Chava a dit qu'il ne fallait pas toucher? Vous allez dire gezer. Pour ne pas arriver à manger. Elle aurait pu faire plein de choses. Elle aurait pu nous dire, non, on n'a pas le droit de manger, et Dieu nous a dit, on n'a pas le droit de s'approcher à un kilomètre de diamètre de l'arbre. Pourquoi a-t-elle dit qu'il ne fallait pas...
C'est Adam qui lui a dit.
Pas tout le monde entend, parce qu'elle avait peur.
Elle avait peur que Adam se tourne dedans.
Et que quoi? Et qu'il mange?
Oui.
D'accord, mais... C'est pas ma question. Je ne pose pas la question pourquoi elle a fait un guéder, pourquoi elle a fait une khumra. Ça, je veux bien toutes vos réponses. Ma question, c'est pourquoi celle-là?
Moukse.
Moi, Moukse. Alors, je vais mettre des barrières autour de l'arbre. Pourquoi elle a dit spécifiquement qu'il ne fallait pas toucher?
Parce qu'elle est sensible.
Mais même si c'est Adam qui lui a dit, ça ne règle pas le problème. Pourquoi Adam lui a dit? Bien, les amis, non, il est temps de lever le voile. Bien sûr que Chava Imenu, c'est possible d'en être autrement, bien sûr que Chava Imenu a étudié la Gemara. Évidemment. Par où? De là, on apprend que les femmes étudient la Gemara. Chava Imenu a étudié la Gemara dans ma Maseret Rosh Hashanah, et elle a appris quel était cet arbre? Quel était le fruit de cet arbre? Alors, ça, c'est une réponse de juif, ça. Ça, je te demande, qu'est-ce que c'est? Tu me dis Marloquet. Ça, on est sûr de ne pas se tromper, mais t'as raison en même temps. Hein. C'est, pour tout, c'est vrai. D'accord, elle met ses Marloquet. Alors, on a un avis qui va nous dire que c'est Geffen. La vigne. Un avis qui va nous dire c'est la figue. C'est Enna. Il y a un avis qui va nous dire le blé. Elle va nous dire au Midrash que le meilleur avis de tous, c'est le étrog. Le étrog. Achav Chava Imenu, elle a étudié la Gemara dans sa Maseret Rosh Hashanah, elle a appris que étrog kashia leyada. Que la main, c'est ce que je l'ai marqué dans la série, que la main fait peur, fait l'igma, c'est pas à l'étrog. Quand on touche un étrog, c'est pas spirituel. D'abord, c'est concret. Quand on touche un étrog, quand on n'arrête pas de le toucher, de le tripoter, ça le détériore. Eh oui! Vous avez déjà vu des gens choisir un étrog pour ce top? Comment est-ce qu'on choisit une pastèque au chouk? Dans tous les sens. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un choisir un étrog comme ça? Non! Le étrog, on le tient à peine et on le regarde avec une loupe. Qu'est-ce qu'on y cherche avec le loupe? Alors on appelle ça, en langage yeshivatique, un bletlar. Le bletlar, c'est la tâche faite par une feuille ou le doigt qui va peut-être le rendre pas cachère si on a trop. Et donc Chava, elle dit comme ça. Elle dit, si on n'a pas encore le droit de le manger parce que on n'a pas mangé de Ephraïm, donc c'est pas l'ordre, si on ne peut pas encore le manger, eh ben faut pas le toucher. Parce que si on le touche, on va le détériorer. Adam n'a pas écouté, il a mangé. Betseder, c'était quel jour? C'était Rosh Hashanah. Donc maintenant qu'il a fait une erreur, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une erreur? On fait tchouba. Combien de temps? La 7e tchouba. Et enfin, il est arrivé à Yom Kippour. Et vous savez ce qui s'est passé à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour?
On mange pas.
Non, c'est vrai qu'on mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait? T'as raison, on mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour?
Le don de ma Torah.
Quoi?
Le don de ma Torah.
Dis le plus fort. Le don de la Torah, Otaï. C'est ça qu'on fait à Kippour. Eh oui, à Kippour, on fait le don de la Torah. Les premières, alors, Mahamad Arsinaï, on n'a pas reçu la Torah. Dieu nous a dit coucou, mais on n'a rien reçu. Ensuite, il est monté pendant 40 jours, 48 Moshe, et il redescend avec les premières louchotes, le 17 Tammuz. Le Vaudor, boum, cassé. Après, il reprit pendant 40 jours, 48 jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et ensuite, il remonte 40 jours, 48, il revient avec les deuxièmes louchotes de la Torah à Yom Kippour. En d'autres termes, Yom Kippourim, c'est le moment où on a mangé Ephraim. On a reçu la Torah, donc on a mangé Ephraim. Maintenant qu'on a mangé Ephraim, eh bien, la première chose à faire, c'est d'enlever la Xéra des Rabbanit. Parce que Chava avait étudié Rabbi Moshe Feinstein et la Gemara, et donc elle sait très bien que Batlatam, Batla Xéra, que dans la mesure où la raison de l'interdit est annulée, ben on peut interdire, on peut annuler, etc., la Xéra. Et donc, la première mitzvah qu'on fait après Kippour, c'est Ulkartem Lachem Pri El Sadal. Vous devez prendre dans la main le Etrog Asukot. On enlève la xéra qu'on n'a plus le droit de toucher. Maintenant, on le touche. Est-ce qu'on le mange? Non, pas encore. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu la Torah. C'est bien beau d'avoir reçu la Torah. Mais on ne l'a pas encore intégrée. On n'a pas encore véritablement intégré toute cette Torah. À partir de Sukkot commence une période très particulière. Je vous rappelle qu'à l'époque, le peuple juif est à 98% agriculteur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben après Sukkot commence l'automne, la saison des pluies. Et donc ça veut dire que l'agriculteur, il est où? Ben, il n'est pas au champ. Donc s'il n'est pas au champ, où est-ce qu'il va? Ben, il va, il va étudier. Et donc il s'imprègne de Ephraim jusqu'à ce qu'il ressente que ça y est. Et à ce moment-là, nous dit le Talmud, alors ceux qui ont la feuille, vous pouvez prendre à un moment donné, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est dans la source numéro 11. Ma'aseh be'Rabbi Akiva sheniket etrog be'echad bishvat ve'na'ad bo shnei isurim echad ki'divre be'tshamayim ve'echad ki'divre be'tilel. Tu vois, on te dit Rabbi Akiva il a fait ça, et au final la Gemara va te dire que Rabbi Akiva il a pris un etrog à tout bishvat et il l'a mangé. À tout bishvat, on mange le etrog. Je ne sais pas d'ailleurs si dans les fruits prévus pour tout à l'heure il y a un etrog. Walou. On va parler l'année prochaine, on va pouvoir rajouter. Alors, où est-ce qu'on va les trouver? C'est très simple. Dans tous les supermarchés, à l'approche de Toubichvat, il y a des étrogues. Comme le barada. Que ce soit la confiture, ou des étrogues, mais sous carine, ou des étrogues séchées, machin. Ils savent, ils ont compris le truc. Parce que les supermarchés ont étudié la Kabbalah, bien évidemment.
Puis au chou, il y a un magasin spécialisé dans
les étrogues. Ah, au chou, il y a un magasin spécialisé dans les étrogues. Ce qui veut dire qu'à tout bishvat, on mange le etrog. À tout bishvat, on est metaken et traite à Adam Arishon. C'est de cela qu'on parle. Tout bishvat, c'est la fête où on va corriger la faute d'Adam Arishon. Tout simplement, ni plus, ni moins. Maintenant, attendez. Tout bishvat. D'autres, on nous a appris que tout bishvat, c'était quelque chose. D'où on sait. Nous, notre idée de faire tout bishvat. Qui a lancé le minhag de faire tout bishvat? Il y a les quatre. Alors, exactement. Dans la Mishnah, on nous parle de tout bishvat comme étant un des Arba Rosh Hashanim. C'est Rosh Hashanah Laïlatot. Ben d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi concrètement? C'est l'anniversaire de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi la dîme? Non, on commence à compter les années pour pouvoir venir, oui?
Ok. 91, c'est 65.
Et 26. Shem
c'est-à-dire qu'il y a le Yichud entre Kosham de Kron et Shrim.
Mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi c'était à Tobishvat. Ah, c'est quand même important. Vous avez raison, ce que vous dites, c'est totalement vrai. Je veux juste comprendre pourquoi c'est à Tobishvat. C'est une bonne question. Alors, le Talmud de Roucham, il va nous expliquer que la Toubishvat, c'est le moment où la sève commence à monter dans les arbres. Sauf que, messieurs, dames, c'est bien gentil ça, mais je ne le vois pas. Je ne veux pas le voir. Or, d'après le judaïsme, je ne crée des choses, je ne décrète des choses qu'à partir du moment où c'est officiel. Tant que ce n'est pas officiel, ben c'est pas officiel. Et c'est la raison pour laquelle Tout Bishvat n'est pas une fête officielle. Pessah, c'est une fête officielle. Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula. Ben oui, évidemment que c'est la Géoula. En plus, dans l'année, ça compte bien. C'est le début du printemps, le renouveau. Il y a Femeol. Pessah, c'est tellement évident que c'est le printemps, que c'est des Oraïda. Mais il y a des gens qui ressentent déjà Pessah. D'ailleurs, ma fille, ce matin, tout à l'heure, elle est revenue de l'école avec une décoration autour de Birkat Ha'ilanot. Elle a fait mode, elle m'a amené Birkat Ha'ilanot. Elle était toute fière, et seulement je lui ai dit, mais Birkat Ha'ilanot, c'est pas maintenant, c'est vrai. Elle a fait ça.
Nissan.
C'est en Nissan. C'est pas maintenant. Et là, ma, il y a des gens qui disent, ok, après ça, j'ai qu'à voir dehors. Je sors dehors, je vois des arbres en fleurs. Mais il y a des gens qui, déjà un mois avant, vont ressentir que, non, avant, c'est un Ashkenaz, c'est maintenant. Dans un mois, deux mois, parce que c'est Shana Mouberet, il y a des gens qui, déjà un mois avant Pessah, vont se rendre compte que ça commence à arriver le printemps. Et donc, il y a des gens qui, à Pourim, arrivent déjà à entrevoir la Géoula.
Mais maintenant, il y a des amandiers en fleurs.
Attends. Ça, c'est à Pourim.
Il y a des amandiers en fleurs.
Et il y a des gens qui, déjà à Tu Bishvat, alors qu'on est en pleine saison des pluies, rappelez-vous la semaine dernière. Mais il y a la Shkedia Porachat. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu veut donner une prophétie à Yechezkel Hanavi, il lui dit Ben Adam Ma'ata Roé. Il lui dit Makel Shaked Ani Roé. Et là, Dieu lui dit Koyer et Taf Tanirot. T'as bien vu. Yirmiyahu, c'est vrai, tu vois, Yechezkel ? Pas pour moi. Mais pourquoi il lui a dit Taf Tanirot ? Maï Taf Tanirot Kolta. Hein ? Ah, il lui a montré, donc c'est pas. Non, et Taf Tanirot que c'est un bâton, ça c'est sûr. Mais t'as vu que c'était un bâton d'amandier. Parce que Shoked Ani al Devari la Hashotor. Parce que je vais le faire rapidement, même quand ça ne se voit pas encore. Tu Bishvat, c'est pas encore le printemps. Tu Bishvat, c'est la pluie, c'est l'hiver. Celui qui va te dire en hiver que c'est le printemps, nous bémet. Moi, je dis que c'est le printemps. Je suis obligé de mettre trois manteaux et deux, c'est le printemps. Ah ben, il y a des gens qui, derrière le manteau et l'écharpe, se rendent compte qu'en fait, on est en train d'arriver vers le printemps pour le faire. Mais cette analogie de l'année, on peut la faire aussi avec la journée. Dans le judaïsme, à partir de quand commence la journée ? Alors, le jour commence la veille, mais maintenant la journée, c'est-à-dire le jour, ça commence quand ? Anetzachama, c'est le lever du soleil. Mais il y a également une permission de commencer à faire les brachot, qu'on appelle Birkot à Shachar, quand ? Be'alot. À chaque fois, c'est avant le lever du soleil. C'est lorsque la lumière commence à revenir. Seulement, d'après les Mekoubalim, quand est-ce qu'on va commencer à dire Bekot à chaque fois ? À Tikkun Chatzot. À partir de Chatzot Laila. C'est-à-dire en français, à partir du début de la fin de la nuit. Et oui, c'est quoi Chatzot Laila ? C'est le milieu. Donc c'est-à-dire qu'après Chatzot, c'est le début de la fin de la nuit. Mais tu ne peux pas le dire officiellement, ça. Parce que ça ne se voit pas. Quand le soleil se lève, tout le monde le voit. C'est une évidence, c'est des oraïta. Quand la lumière revient, c'est aussi un peu évident, mais moins que quand le soleil est là. Donc ce n'est pas des oraïta, c'est des rabbanan. Pessah, c'est évident, c'est des oraïta. Pourim, c'est des rabbanan. C'est un peu moins évident. Tu Bishvat, c'est gam lo des oraïta, mais lo des rabbanan, c'est minag. Zéminhal, parce que tu ne peux pas l'officialiser. Celui qui se lève à Tikkun Chatzot, eh bien il se lève. Celui qui ne se lève pas, il ne se lève pas. Attention, il ne s'agit pas de mettre son réveil. Celui qui se lève parce qu'il ressent qu'il faut se lever à ce moment-là, alors il se lève. Celui qui s'est éveillé à cela, il se lèvera. Celui qui ne s'est pas éveillé à cela, il ne se lèvera pas. Il y a donc des scènes.
David Améler.
Comme David Amela, par exemple. Chatzot Laila Akum Laodot Lachnachot. Mais moi, je ne suis pas David. Donc, tant que moi, je ne me suis pas éveillé à cela, ben, ce n'est pas de mon niveau. Mais c'est vrai. Tout Mishpat, je ne peux pas te l'imposer. Dès que tu voudras te l'imposer, alors tu ne l'imposeras. Ça veut dire que tu seras arrivé au niveau. Ce qui est vrai au niveau de la journée, cette dimension de lever du soleil, la lumière et tout Mishpat, c'est-à-dire le début de la fin de la nuit, qui est vrai également au niveau de l'année, comme on a dit, Pessah, Purim, tout Mishpat, est vrai également au niveau de la Géoula. Il y a un moment où la Géoula, elle est Miprinat Netzachama. Il y a un moment donné où la Géoula, elle est levée du soleil. C'est le Yom HaTzmaout, le 14 mai 1948, Hebeya Tachar. Voilà, ça y est, c'est terminé, c'est la Géoula, c'est officiel. Comment on sait que c'est officiel? Parce que la Halakha nous a dit, dans la Gemara, dans le Chazir de Sanhedrin, et le Ramaï, qui possède que c'est la Halakha, que Ein ben haolam hazeh li'imot ha-mashiach, et la shi'abud malchuyot bilvad. Point. C'est tout. Point, c'est facile. Yom HaTzmaout, c'est clair. Mais il y a des gens qui, avant Yom HaTzmaout, avant que ce soit clair, ont quand même déjà ressenti que ça y est. Comme par exemple le Chafetz Chaim. Lorsqu'il entend à la radio la déclaration Balfour, enfin, il n'entend pas, on n'a pas dit la déclaration Balfour à la radio, mais quand on entend parler de la déclaration Balfour, il dira à son fils, et c'est ce qui est reconstruit dans le livre Toltov Chafetz Chaim de son fils, que le Chafetz Chaim a dit Dos is Dos. Ce qui veut dire en bon français Zéouzé. Ça y est. Ce que dira également Rebbeir Simcha Kohen Mitzinsk, un Meshech Chokma, lorsqu'il entendra la déclaration Balfour. Zéou. Ça y est, la Géoula est en marche. Mais comment ça, la Géoula est en marche? C'est les Britanniques maintenant, les patrons. Et quoi? Et le livre blanc? Zéouzé. Mais bon, on pouvait quand même déjà un petit peu comprendre ça. J'étais ce Shabbat, prié, Netzachama, à la synagogue de la Khourva. Et là-bas, c'était un Shabbat Khatan, et lorsqu'on était à la fin de la synagogue, j'ai fait une petite visite de la synagogue avec la famille du Khatan, j'ai dit, vous savez ce qui s'est passé ici, Shabbat Nachamu 1917 Shabbat Nachamu. Nachamu, Nachamu, ami. Le Shabbat de toutes les Nechamot, en 1917, a été invité Sir Herbert Samuel. Et c'est lui qui a eu martyr. C'est lui qui a eu martyr. Il était le nouveau gouverneur de la Palestine par le biais des Anglais. Il était juif. Seulement, c'était qui le rabbin de cette synagogue à ce moment-là? C'est le Rav Kook. Et lorsqu'il va donner son Dvar Torah, eh bien, il va appuyer sur la bracha qu'on dit pour les Birkot Haftarah. Et il dira en regardant bien dans les yeux Sir Herbert Samuel, Al kis'o lo yeshev zav. Les choses soient bien claires. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est mieux que les Ottomans, mais les Anglais, c'est pas encore ça. Mais il y a des gens qui ont dit, mais on arrive déjà à voir la Géoula. Les Prinat pourri. Mais il y a des gens qui, alors qu'on était en plein sous la domination de l'Empire Ottoman, avec une corruption pas possible, avec une situation pour les juifs exécrable. À la fin du 19e siècle, même avant Herzl, qui disent Zé ou Zé, dans le Vilna, le Baal Shem Tov, le Chaboutzim Atemanim, ils comprennent que Zé ou Zé. Mais comment ça, Zé ou Zé? Regarde dehors. C'est rien du tout, Géoula. T'as les Ottomans, c'est terrible, rien n'a changé. Non, Zé ou Zé. Corée, ma joue. Je ne peux pas te l'expliquer. Parce que si je te l'explique, tu vas me dire n'importe quoi. Moi, je le ressens. C'est la raison pour laquelle tout Bishvat est une fête qui a été lancée en tant que fête à partir des Chassidei Ashkenaz au XIIIe siècle. Il a pris un essor beaucoup plus important avec les élèves du Arizal. Mais c'était quand même extrêmement, extrêmement réduit. Finalement, c'était dans les Rougim, les Tsumtsamim, des Mekoubalim. Ça a pris un essor énorme, déjà avec ce minhag fantastiquement absurde qu'on a tous appris par le biais du KKL, qu'on plante des arbres à Tout Mishpat. Est-ce que quelqu'un a déjà planté un arbre à Mishpat?
Oui.
C'est Kev, hein? Hein, c'est Kev. C'est le pire moment de l'année pour planter un arbre. Les choses sont bien claires. Botaniquement parlant, c'est pas bon. Halakhiquement parlant, c'est pas top non plus. Rosh Hashanah, la Netiot, c'est quand? Bien, Rosh Hashanah, la Netiot. C'est quand le meilleur moment pour planter? C'est en été. C'est en été. La fin de l'été. Il fait pas trop chaud, mais il fait pas encore les pluies. Bon, faut qu'un arbre prenne racine. Docteur Arav, docteur Zev Yavetz, à Mikvé Israël, il y a 130 ans, il décide que Yalla Bonimta Machu. D'où il a dit ça? Quoi, il savait pas que c'était pas le bon moment pour planter un arbre? De Vadaï, il savait. Alors, vous savez pourquoi on a le minage de planter des arbres d'Afka à Toubishvat alors que c'est pas le moment? Non, Rabotai. Mais c'est Toubishvat. Ah, fait de la Emouna. Non. On a dit que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? La sève elle monte, on a dit, mais c'est l'air. Mais ça, vous savez quoi? On n'a qu'à couper l'arbre pour le voir. On voit un rayon X de l'arbre, mais on le voit. Non, il se passe autre chose. Vous savez ce qui s'est passé à Toubishvat? Il y a Sabbat Kol. Il y a une voix qui est sortie. Je ne sais pas encore où. Mais elle est sortie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a entendu dire comme ça que Arbaim Yom Lifnei Yetzirat Avalad Batkol Yotzev Vomer Batploni Liploni. 40 jours avant quoi? Yetzirat Avalad. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Avant la création de l'enfant, il y a une voix qui sort et qui dit celle-là, il est pour celui-là. Ce bébé-là, c'est pour celui-là, non, non, non. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe 40 jours après Toubishvat? 40 jours après Toubishvat, c'est quoi? Ça, c'est pas Pessah. 40 jours, c'est pas pourri, ça c'est 30 jours. 40 jours après Toubishvat, c'est Kafé Be'adar. Kafé Be'adar, Rabotai, c'est Briat Haolam. C'est Briat Haolam. Et oui, vous savez que le monde a été créé le 25 Elul. On dit que Rosh Hashanah, c'est Briat Haadam. Et donc on dit en fait, non, mais ça c'est le sixième jour, donc on fait cinq jours avant. Café Be'elul, de Briata Olam. Oui, mais ça c'est le Fichitat Rabbi Eliezer. Le Fichitat Rabbi Yoshua, Benissan, Nivra Olam. Et la halakha, c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Donc Benissan, Nivra Olam. Et donc 40 jours avant, enfin Benissan, Nivra Olam, je reprends de Benissan, ça veut dire Adar en fait. Et donc ça veut dire que Café Be'adar, Nivra Olam, Be'emet. Et que donc 40 jours avant Yetzirat Avalad, et c'est qui le balade? A Olam. 40 jours avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu à Toubishvat, il a dit il est déhousé. C'est quelque chose qui est tellement profond qu'on ne peut pas le dire officiellement. Mais donc, comme ce n'est pas officiel, ben c'est pas officiel. Là, on est très contents, on se réunit, c'est génial. Mais si quelqu'un décide de ne pas faire Toubishvat, il n'a fait aucune avéra. Il faut pour que cette fête devienne une fête officielle, qu'elle soit accompagnée non pas de belles explications, mais de quoi? D'un fait. Alors, j'ai commencé à dire tout à l'heure qu'il y avait un minage de planter des arbres. Vous savez pourquoi est-ce que nous on plante des arbres? Donc, docteur Arav Yavetz, il a dit parce que c'est Briat Haolam. Oui, mais alors, quel rapport? Mais quel rapport? C'est quoi la première chose que Akadosh Baruch Hu il a fait lorsqu'il a créé ce monde? Vaïta. Akadosh Baruch Hu gagne. Il a planté le Gan Eden. Résultat des courses, la première mitzvah que le peuple juif reçoit lorsqu'il rentre en Israël, c'est quoi? De planter des arbres. Arav, docteur Zev Yavetz, il dit donc la première chose qu'on fait à Toubishvat, c'est dans le moment où on se rencontre uniquement parlant. Uniquement parlant. À l'intérieur. On se rend compte que ce qu'on est venu faire ici, c'est de réaliser ce renouveau et cette Géoula, alors on plante des arbres. Même si ce n'est pas le bon moment au niveau botanique. Mais pour que cette fête devienne une véritable fête, eh bien, il va falloir qu'il y ait un événement. Un événement qui touche le peuple juif, qui soit suffisamment énorme pour que le grand rabbinat d'Israël décide, à partir de ce moment-là, on fait une fête. Et celui qui ne fait pas, tant pis, il verra. Pour l'instant, il n'y a pas eu, il y a eu. Il y a eu, mais pour l'instant, le rabbinat, il fait encore dodo, il n'a pas décidé d'en faire une fête. Mais il y a déjà eu un événement à Tu Bishvat qui aurait pu largement mériter que cette fête devienne officielle. Là, cet événement, il est marqué ici dans le dernier, ceux qui ont la feuille, dans la dernière sauce. C'est la fin de la Hagdama du livre de Horoth, écrit par donc, le Horoth du Rav Kook, mais la Hagdama est écrite par le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et le Rav Tzvi Yehuda dit comme ça. Bezrat Hashem, Shefa, Kodesh HaKodashim Shel Sefer HaHorot Hazeh, שהופיעה מתוך פחת האורו של הכהן הגדול, אדוני אבי מורי זס, ורבי הרב זזל, בשנת תרפ"ע, עם ראשית בו, בדבר השם, לחזרת שכנתו ומתכוננות מלכותו לירושלימה, הנה חוזר ומופיע עתה בשנת הקטורת, תפוסה סלילה פודיציון, אלא לרב ציודה נודי, אלא רובניו. סוגית בולה אורות, קום, עם ראשית גילויה של רוממות ימין עליון, לגאולת עמו ונחלתו וישועת משיבו. Mes amis, je termine par cette phrase. Le Rav Tzvi Yehuda nous dit que Shnat HaKtoret, la deuxième année où va réapparaître le livre Horoth, c'est une année qui s'appelle, je le traduis en français, le début du dévoilement de la grandeur de la droite évidente de la Géoula du peuple de Dieu, de sa terre et de son Mashiach. Tout ça, ça se passe Shnat HaKtoret. Et Shnat HaKtoret en français, c'est 1949. Mes amis, en 1949, à Tu Bishvat, la Knesset est passée à Jérusalem. Elle était à Tel Aviv pendant les combats, pendant la guerre d'indépendance. À Tu Bishvat 1949, le Parlement israélien, c'est-à-dire le dévoilement de la résurrection nationale d'Israël, est revenu dans sa capitale éternelle à Jérusalem. C'est déjà un événement qui s'est passé à Tu Bishvat. Pour l'instant, le rabbinat n'a pas encore décidé d'en faire une fête. Donc peut-être que, si ce n'est pas ce soir, peut-être demain, et sinon l'année prochaine, il se passera très certainement quelque chose qui justifiera que Tu Bishvat ne soit plus un minhag, mais devienne une fête Kodesh Kodashim pour le peuple juif tout entier. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter maintenant bon appétit. Bon manger.
Attends.
On va faire les brachot, bien sûr. Oui.
Donc vous avez entendu, je rappelle que le Rav Tizon nous donne des cours tous les mardis pour la parachat à Shavua.